Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
On va passer au-dessus de Sergueï. Et ici, c'est la Cupola. C'est d'ici que je prends la plupart de mes photos. On voit le coucher de soleil et peut-être les lumières des villes au sol. C'est une fenêtre panoramique à 360 degrés.
On l'entend en ce moment faire la visite de l'ISS lors de son premier séjour. Dans quelques jours, Thomas Pesquet s'envolera une seconde fois pour la Station Spatiale Internationale et cette fois en tant que commandant de bord. Et dans le même temps, l'Agence Spatiale Européenne ouvre une campagne de recrutement. Voilà 11 ans que cela n'était pas arrivé depuis hier. Il est donc possible de déposer son dossier de candidature pour répondre à une offre d'emploi aux allures de rêve d'enfant. Des volontaires pour devenir nos nouveaux collègues, lancez-vous, a d'ailleurs tweeté l'astronaute français Thomas Pesquet. Or, les vols habités coûtent cher, 1 euro par an et par habitant de l'Europe. Trop cher? Les robots ne peuvent-ils pas faire le travail? D'autant que, malgré les progrès de la technologie, l'exploration spatiale est risquée. Faut-il encore envoyer des hommes dans l'espace? C'est la question qui fait le débat du jour sur RFI.
RFI.
Bonsoir Yamina Hammer.
Bonsoir.
Vous êtes administratrice au département des ressources humaines de l'Agence spatiale européenne. C'est entre vos mains que passeront les candidatures. Bonsoir Philippe Hénarejos.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue qui fait référence Ciel et Espace. Et puis nous sommes en ligne avec Cyprien Verseux. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Astrobiologiste au ZARM, laboratoire de microbiologie spatiale appliquée, installé à Brême, je vais y arriver en Allemagne. Commençons par vous justement, parce que cela fait un petit moment que vous rêvez d'être astronaute, spationaute on dit hein, pour les Européens, et vous allez déposer votre candidature. Vous avez 30 ans, c'est bien ça?
C'est bien ça, oui.
Alors comment ça se passe? Vous avez déjà rempli votre CV, votre lettre de motivation?
Alors j'ai commencé, oui, alors il me reste un peu de temps pour les améliorer, puisque les candidatures sont ouvertes jusqu'à la fin du mois prochain. Mais oui, j'ai commencé à remplir la candidature en ligne.
C'est un rêve de gosse?
Oui, mais en fait j'ai toujours été attiré par l'exploration. Et c'est vrai qu'on est né à une période où la Terre a été en grande partie explorée. C'est vrai qu'il y a encore quelques endroits qu'on connaît moins, mais globalement il n'y a plus de continents nouveaux à découvrir. Alors c'est normal, je pense, de commencer à rêver d'explorer d'autres planètes, d'aller sur la Lune.
C'est une ambition scientifique également?
Scientifique aussi, oui. Je pense qu'on a énormément à apprendre grâce à l'exploration spatiale.
Vous êtes, dans astrobiologiste, ça consiste en quoi?
L'astrobiologie, en général, c'est l'étude des origines de la répartition et de l'évolution dans la vie, dans l'univers. Et moi, en ce moment, je travaille sur quelque chose qui est un peu plus appliqué, qui est sur comment est-ce qu'on peut produire ce dont on a besoin pendant les voyages spatiaux. Je travaille notamment sur les futures missions sur Mars. Comment est-ce qu'on peut produire ce dont on a besoin à partir de ce qu'on trouve sur place en utilisant la biologie?
Alors, pour candidater, est-ce qu'il faut une condition physique exceptionnelle? On a tous en tête ces images d'hommes écrasés par les facteurs de charge dans une centrifugeuse.
Alors, il faut être en bonne santé physique. Mais il n'y a pas besoin non plus d'être un athlète. C'est-à-dire qu'il faut être capable de supporter, de faire des efforts physiques, d'être dans des conditions qui peuvent être physiquement difficiles. Mais encore une fois, ce qu'on cherche, c'est pas des athlètes de haut niveau.
Vous espérez être parmi les heureux élus. Ils seront rares, hein, puisque seuls 4-6 candidats seront retenus. Hein. Là, vous croisez très fort les doigts, oui. Là.
J'espère, oui. Alors je sais qu'il y a très peu de chances, puisqu'il y aura énormément de candidats, énormément de critères différents, il y a beaucoup de choses qu'on contrôle pas, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment, ça serait extraordinaire d'être sélectionné.
Alors, votre candidature passera entre les mains, entre autres, de Yamina Hammer. Je rappelle que vous travaillez au département des ressources humaines de l'Agence spatiale européenne. Vous attendez à recevoir combien de candidatures dans les deux mois qui viennent?
Alors, c'est assez difficile de prévoir. Ce que je peux vous dire, c'est que si on se base sur la campagne de sélection de 2008, nous avions reçu à l'époque plus de 8000 candidatures. Donc, on espère en avoir plus, notamment avec les moyens de communication qui ont été mis en œuvre. En tout cas, ça a été un petit peu évoqué précédemment. Pour le moment, le nombre de postes qui seront à pourvoir, et entre 4 et 6, même si on se rapproche pour le moment plutôt vers 4 que 6, même si le chiffre n'est pas complètement ferme. Et en tout cas, on espère attirer plus de femmes, puisque en 2008, nous n'avions eu que 15% de candidatures féminines.
Donc 8000 postulants à l'époque, moins de 10 candidats recrutés. Parmi lesquels se trouvait Thomas Pesquet, hein, dont on parlait tout à l'heure, et qui va redécoller pour l'ISS dans quelques jours. Quelles sont les qualités exigées? Qu'est-ce qu'il y a dans la fiche de poste, Yamina Hammer?
Alors, je pense que ça a été évoqué un petit peu précédemment, mais je le reprécise, les vacances de poste sont effectivement en ligne sur le site de l'agence, donc j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à y jeter un œil. Ce que je peux dire brièvement, c'est qu'au niveau de la formation, on demande aux candidats d'avoir au minimum un master scientifique. Donc ça peut être un master dans les sciences naturelles, dans l'ingénierie, dans les mathématiques, ou encore un diplôme de médecine. Et 3 années d'expérience professionnelle suite à l'obtention de ce diplôme. Au niveau des langues, au vu de l'environnement international dans lequel les astronautes vont évoluer, on attend des candidats qu'ils maîtrisent l'anglais. Mais contrairement aux idées reçues, le russe n'est pas obligatoire puisqu'il sera enseigné durant la formation. Après, il y a d'autres critères qui sont liés à la condition physique. Effectivement, on attend des candidats qui soient en bonne santé, mais aussi qui puissent travailler en équipe. Donc je dirais qu'on attend ces candidats qui soient vraiment motivés, parce que c'est un processus de sélection qui est long. Mais encore une fois, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à jeter un œil à notre site internet, parce que toutes les informations nécessaires sont publiées.
Cyprien Versieux, vous parlez combien de langues et lesquelles ?
Alors, je parle le français, ouais. L'anglais couramment, l'italien couramment, l'allemand. J'habite en Allemagne, et donc je commence à le parler de plus en plus, de mieux en mieux.
Et donc, il y aura le russe.
J'ai appris un peu l'espagnol au collège, mais ça commence à remonter. Le russe, non. Le russe. Si jamais je suis sélectionné, il faudra que je l'apprenne.
Donc, je rappelle, vous avez 30 ans, vous êtes astrobiologiste. Philippe Hénarejos, vous êtes donc le rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace. On n'est plus dans les profils tête brûlée des pilotes militaires d'antan qu'on voit dans le film Étoffe des héros.
Et non, plus du tout, mais c'est normal, parce qu'à l'époque, on ne connaissait rien de ce que les astronautes ou les aspirants astronautes allaient affronter dans l'espace. On avait quelques idées, mais on leur faisait subir des tortures qu'ils n'auraient même peut-être pas à subir dans l'espace. Donc il fallait, on se souvient bien du film L'étoffe des héros, tiré du roman, où on leur fait faire tout un tas de choses, d'examens qui sont aujourd'hui écartés.
La centrifugeuse, là, dont je parlais tout à l'heure, ça reste d'actualité, ça sert à quoi?
Ah ben oui, parce que la centrifugeuse, quand vous allumez la mèche, quand vous allumez la fusée et qu'elle décolle, ça décolle quand même assez fort, et donc vous encaissez, ça dépend des fusées, mais ça peut aller jusqu'à 4G, quelque chose comme ça.
Donc 4 fois le poids de son corps, oui.
Voilà, si jamais vous avez un retour dans l'atmosphère, au retour de mission un peu sportif, ça peut dépasser ça, c'est déjà arrivé. Il y a eu des retours en Soyouz qui ont été un peu sportif parce qu'il y avait une panne ou des choses comme ça. Et donc là, il faut quand même être capable d'encaisser ça. Donc la centrifugeuse, je ne crois pas qu'elle va être remisée de sitôt. Hein. Voilà.
Est-ce qu'il faut des gens peut-être plus fins psychologiquement aujourd'hui ?
Ben là, le profil des missions, en tout cas ces dernières années, a beaucoup changé par rapport au début, à l'étoffe des héros, où c'était quelques minutes en apesanteur, voire quelques orbites. Bon, les plus longs, jusqu'aux années 70, c'était une quinzaine de jours pour aller sur la Lune, marcher, revenir. Il y avait quelques stations spatiales où il y avait un mois, donc voilà, ça c'était les plus longs, mais en gros, c'était pas tout à fait le même profil de mission. Là, aujourd'hui, on voit bien Thomas Pesquet, dont on parlait tout à l'heure au début de l'émission. Sa première mission, ça a été 6 mois. Là, il va repartir le 22 avril, si tout va bien, et c'est de nouveau 6 mois. Donc, on comprend bien que il y a quand même quelque chose de plus routinier dans ces missions-là que dans une mission qui va durer une semaine avec un objectif qui est par exemple d'aller marcher sur la Lune, ramasser des cailloux en quelques heures et revenir au plus vite. Vous voyez,
ça veut dire aussi fréquenter d'autres astronautes, spationautes, taïkonautes, pour l'instant les Chinois font ça de leur côté. Donc il faut avoir un esprit sociable et puis savoir travailler en équipe.
Absolument, c'est ça. La station spatiale, elle est internationale. Et donc, vous avez des astronautes, des spécialistes de mission venus de différents pays. Et il faut savoir arrondir les angles sur la durée, parce que, encore une fois, ça ressemble un peu à des missions en Antarctique, Cyprien Verseux pourra sans doute en parler, mais en tout cas, il y a des longues périodes où il faut gérer un peu les humeurs, où il faut être sociable, il faut arriver à apaiser, à continuer à faire le travail correctement. Les journées sont chargées malgré tout, même si c'est dans la durée, c'est des journées chargées.
Et puis, il faut savoir être un bon communicant. Thomas Pesquet, c'est quand même la star des réseaux sociaux, hein.
Alors, on se pose la question à Célespace. J'ignore si c'est un critère retenu par l'ESA. Mais en tout cas, c'est vrai que les astronautes aujourd'hui ont des outils pour mieux communiquer vers le public directement, alors qu'à l'époque, ils ne le faisaient pas.
Yamina Hammer.
Alors justement, je me permets d'intervenir pour préciser deux éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, en ce qui concerne la coopération et la capacité à travailler en équipe, ça fait partie des critères qui sont décrits dans la vacance de poste. Donc, je rejoins tout à fait ce qui a été dit jusqu'ici. Après, en ce qui concerne la communication, également, on attend de la nouvelle génération d'astronautes qui puissent participer à des activités de communication globale, et notamment auprès des jeunes générations, puisqu'on sait que les astronautes sont des ambassadeurs des activités spatiales et technologiques de manière générale. Donc je confirme qu'effectivement, on attend de ces candidats d'être en mesure d'effectuer également ce genre d'activité.
Vous êtes fan des réseaux sociaux, Insta, Snapchat, etc. Monsieur Verseux.
Non. Alors j'ai Facebook, un compte Instagram et un compte Twitter sur lequel je poste de temps en temps. Alors c'est vrai que je tweete pas 10 fois par jour, mais simplement je tweete. Je m'en sers pour communiquer en général quand j'ai quelque chose à dire. Mmh. Par exemple quand j'ai dans les missions que j'ai pu faire. Et évidemment, si j'allais dans l'espace, j'aurais beaucoup de choses à dire et donc je serais ravi de partager par ces réseaux.
Yamina Hammer, vous parliez de nouvelle génération il y a de cela quelques secondes. Avec cette nouvelle vague de recrutement, vous vous entendez à l'Agence spatiale européenne, l'ESA, initier un véritable changement générationnel. L'objectif, c'est de renforcer la diversité de genre dans ses rangs. Vous y faisiez allusion, vous voulez recruter plus de femmes parce qu'il y en a très peu qui postulent et qui sont retenues derrière.
C'est ça. Alors, plusieurs choses à préciser ici. C'est vrai que, en tant qu'organisation intergouvernementale, l'Agence spatiale européenne a conscience de la richesse qu'apporte la diversité, notamment au niveau des nationalités et des cultures que nous avons dans notre population. Mais il y a aussi cette volonté de refléter plus largement les sociétés européennes en attirant des talents différents. Et en ce qui concerne la diversité, on aimerait assurer une meilleure mixité des genres dans un milieu qui reste pour l'instant assez masculin. Donc ça ne veut pas dire qu'on va privilégier les candidatures féminines parce que la compétence reste la clé. Cependant, ce qu'on espère, c'est que en attirant plus de candidats de candidatures féminines, cela renforcerait les chances d'avoir in fine plus de femmes sélectionnées en fin de parcours. Je prends juste un exemple pour revenir à la campagne de 2008. Nous avions 15% de femmes qui avaient postulé pour obtenir finalement une femme sur six personnes qui avaient été recrutées au sein du corps. Donc finalement, on se rend compte que c'est assez représentatif de la répartition des genres que nous avions eue au départ au niveau des candidatures.
Et puis le changement, c'est aussi, on parlait de la bonne condition physique qu'il faut avoir.
Oui.
Pour autant, vous réfléchissez à retenir un candidat qui serait handicapé physiquement ?
Alors, effectivement, c'est un projet qui est assez novateur puisque c'est la première fois que l'Agence spatiale européenne va se lancer dans cette aventure. Je le précise juste pour nos auditeurs que ce sera une vacance de poste séparée par rapport à la vacance de poste standard pour les 4 positions d'astronautes. Et en fait, ce projet de faisabilité, il contribue à l'objectif global d'assurer une meilleure représentation de la société en promouvant la diversité et l'inclusion. C'est pour ça que ce projet dit de Parastronaute Fly a pour objectif d'étudier la faisabilité d'envoyer une personne avec un handicap physique dans l'espace afin d'effectuer un vol spatial en tant qu'astronaute professionnel. Donc l'objectif, c'est vraiment d'étudier quelles seront les adaptations, notamment au niveau des modules, afin de rendre cet objectif possible et réalisable. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a réduit la liste de handicaps qui pouvaient être envisagés afin de maximiser les chances de réussir ce projet.
Donc on a une nouvelle campagne de recrutement pour recruter une nouvelle génération de, alors spationautes c'est pour l'Europe,
oui.
Cosmonautes c'est pour les Russes, astronautes c'est pour les Américains et taïkonautes pour les Chinois. Cela dit, on tourne autour de la Terre avec l'ISS plusieurs fois en l'espace de 24 heures. Les vols habités sont utiles pour la recherche scientifique, on ne cesse de nous le répéter. Mais après toutes ces années, tout ce qui pouvait être testé en apesanteur ne l'a-t-il pas été? Je vous pose la question, Philippe Hénarejos de la revue Ciel et Espace.
Alors, il doit certainement y avoir encore beaucoup d'expériences à mener qui nécessitent, par exemple, l'apesanteur, l'absence de pesanteur en tout cas. Vu que bon, la station spatiale, c'est un laboratoire qui a une certaine capacité, il y a un certain nombre de membres à bord, mais ça reste réduit malgré tout. Il faut que les expériences soient spatialisées, c'est-à-dire qu'elles soient faites de telle sorte qu'elles puissent embarquer de manière sans poser de problème de sécurité à bord d'un vaisseau, qu'elle puisse se réaliser dans l'espace. Donc tout ça, ça demande pas mal de travail. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de candidats et que les élus sont plus restreints. Donc,
mais on est bien d'accord que le retour sur l'expérience semble marginal au jour d'aujourd'hui. On n'entend plus de choses qui ont été mises au point là-haut et qui nous servent aujourd'hui dans notre quotidien, nous les terriens.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de promesses en physique, en chimie. Alors, il y a des expériences qui se réalisent, il y a des résultats. C'est vrai que ces résultats ne sont pas forcément ensuite des retours qui sont très visibles. Je serais bien en peine de dire exactement ce qu'il en est. Et c'est sûr que aussi dans la tâche des astronautes, il y a quand même une part non négligeable consiste à entretenir la station spatiale et aussi à mener des expériences toujours tournées vers les vols spatiaux. C'est vrai qu'on a beaucoup appris, mais il y a encore beaucoup à apprendre, notamment dans les vols spatiaux de longue durée qui seront nécessaires si un jour on va envoyer des gens vers Mars.
On va en parler dans quelques instants. Ouais. Je voudrais citer Thomas Pesquet qui reconnaît qu'on n'a pas, je le cite, on n'a pas découvert le vaccin contre le sida là-haut, mais on travaille sur le corps en apesanteur, par exemple sur le cerveau, le système nerveux, ce qui permet ensuite d'orienter les traitements sur des gens qui ont des pathologies au sol. Il ajoute aussi, on fait des recherches sur les alliages, sur les matériaux, parce qu'en apesanteur, ces matériaux ne se sédimentent pas et on peut les étudier finement. Justement, Cyprien Verseux, vous avez contribuer d'une manière ou d'une autre à une expérience à bord de l'ISS.
Oui, ça fait pendant ma thèse, je travaillais sur une expérience qui s'appelait Exposer 2. En fait, c'est une plateforme dans laquelle on a mis différents échantillons biologiques, donc des bactéries par exemple, d'autres types d'échantillons biologiques, des molécules, et qui ont été accrochés à l'extérieur de l'ISS et qui ont été exposés soit à l'espace directement, soit à des conditions martiennes simulées. C'est-à-dire qu'on mettait un analogue de sol martien. On simulait l'atmosphère martienne, on mettait un filtre pour avoir à peu près les mêmes radiations solaires que sur Mars. Et en fait, c'est pour répondre à des questions, différentes questions en astrobiologie, par exemple, voir où est-ce que la vie pourrait exister, avoir existé sur Mars, comment est-ce qu'on pourrait la détecter, et d'autres questions fondamentales en astrobiologie.
Est-ce que la plus grosse réussite de ce qui tourne au-dessus de nos têtes, Philippe Hénarejos, ce n'est pas ailleurs? Tout simplement le fait que c'est un projet commun, et que là-haut, finalement, il y a la concorde des nations qu'on ne retrouve pas sur Terre.
Oui, moi je dirais que c'est la chose, en tout cas la plus visible et qui est très réussie. Alors, souvenons-nous quand même, le début de l'exploration spatiale, c'était la guerre froide. C'était une guerre sans armes, certes, mais c'était entre le bloc soviétique et le bloc américain. C'était une compétition sévère. Depuis que le projet de station spatiale internationale a commencé, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, ce qu'on voit, c'est que Américains, Russes, Européens, Canadiens, Japonais, enfin, j'espère, j'en oublie certainement, mais tous ces gens-là arrivent à travailler ensemble, quoi qu'il se passe sur Terre. Vous avez eu, pendant l'exploitation de la station spatiale internationale, des tensions diplomatiques sévères entre, par exemple, la Russie et les États-Unis. Eh bien, ça, le programme ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que là-haut, c'est quand même une espèce de havre de paix autour de la science. Et ça, c'est une sorte de d'ambassade neutre qui maintient le dialogue, les astronautes, qu'ils soient russes ou américains, quand il y a des tensions entre leurs pays, là-haut, eh bien, ils restent en dehors de tout ça, ils continuent à discuter, ils continuent à faire leur travail.
Donc c'est au moins une bonne raison pour continuer...
C'est quelque chose de très positif quand même.
D'envoyer donc des hommes dans l'espace, mais demain, quoi demain? On continue d'en parler dans la deuxième partie de ce débat du jour sur RFI.
Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
La prochaine génération d'astronautes devra certainement participer au programme américain Artemis qui vise notamment à l'installation d'une base permanente sur la Lune, car il ne s'agit plus seulement d'y aller pour y planter un drapeau, mais bien d'y installer des équipements de manière permanente. On va donc remarcher sur la Lune, c'est l'un des objectifs, l'une des missions que vous fixez à vos futurs recrutés, Yamina Hammer de l'Agence spatiale européenne.
Alors, le premier objectif que l'on souhaite fixer à notre nouvelle génération d'astronautes, c'est déjà d'apprendre de la promotion qui est déjà active. Donc, je dirais que la campagne de recrutement actuellement, elle vise vraiment deux objectifs. Donc, d'abord, un transfert de connaissances entre la promotion d'astronautes actuels et la future, parce que la formation des spationautes, prend du temps, mais aussi de permettre d'assurer la continuité des missions spatiales au vu des prochaines opportunités de vol qui se profilent. Et effectivement, ça a été un petit peu évoqué, mais il y a certaines opportunités de vol qui semblent se dessiner au-delà de l'ISS, avec peut-être un jour la Lune, voire plus loin.
En tout cas, il faut y retourner et y rester pour des périodes supérieures à quelques jours, comme cela a été fait avec les missions Apollo. Cyprien Verseu, vous avez, effleuré le sujet, même si vous y avez passé pas mal de mois. Vous avez mené une expérience à peu près similaire, d'enfermement en Antarctique, c'était il y a 3 ans.
C'était en 2018, j'ai eu la chance de partir sur la base Concordia, qui est une base franco-italienne gérée par les instituts polaires français et italiens, l'IPF et le PNA, et qui est à peu près 1000 km de la côte en Antarctique, dans un désert de glace. C'est-à-dire que tout autour, sur des centaines de kilomètres, il n'y a pas une plante, il n'y a pas un animal, il n'y a pas un rocher, pas d'infrastructure. C'est juste un désert de glace. Et au milieu de tout ça, il y a 2 tours de 3 étages qui sont reliés par un couloir suspendu, c'est la base Concordia. Et 9 mois par an, la base est complètement isolée, simplement parce que les températures sont si basses que à peu près aucun véhicule ne peut rejoindre la base ou la quitter. Il peut faire jusqu'en dessous de moins 80 degrés Celsius. Et en même temps que les températures, la luminosité va baisser.
Donc les conditions sont extrêmes et vous vous êtes finalement quelque part un petit peu préparé à cela. Et vous voyez plus loin, puisqu'on parle de Mars. Et là, pour ça, vous êtes allé à Hawaï pendant 1 an. Racontez-nous.
Je suis allé, pardon ?
À Hawaï.
Ah oui, pendant 1 an. Alors là, c'était la mission ISS-4, qui était une mission donc financée par la NASA pour voir un peu comment est-ce qu'un équipage se comportait quand ils étaient isolés et confinés et qu'ils avaient un mode de vie qui était proche de celui qui était attendu des futures missions sur Mars. Et donc, on a vécu dans un dôme de 11 mètres de diamètre qui était perché sur les pentes du volcan Mauna Loa à Hawaï. Et on était pendant 1 an jamais exposé à l'air libre. Et on n'avait aucune communication en temps réel avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'internet, pas de téléphone. On avait juste un système de messagerie avec un délai de 20 minutes à l'envoi et à la réception. Donc jamais de réponse en moins de 40 minutes.
Ça fait une sorte de confinement expérimental, bien évidemment, pour pouvoir participer et subir ces missions très longues, Philippe Hénarejos, car il faut aussi développer des équipements qui résistent à une exposition prolongée aux conditions lunaires ou aux conditions martiennes.
Alors oui, le fait d'aller déjà vers la Lune, que ce soit autour de la Lune ou sur la Lune, et puis évidemment encore plus sur Mars, ça va poser des challenges techniques pour pouvoir faire survivre les astronautes dans des conditions de sécurité. Il faut savoir que l'univers, le Soleil, l'ensemble des étoiles de la galaxie renvoient des rayonnements qui sont nocifs. Alors on est un peu protégé malgré tout, même si on est plus exposé qu'au sol dans la station spatiale, on est un peu protégé par les ceintures de radiation, par le champ magnétique terrestre qui dévie une partie de ces rayonnements. Mais là, si on va sur la Lune, on est en dehors de tout ça. Donc s'il y a des éruptions solaires violentes ou des choses comme ça, il faut que les équipages ne soient pas irradiés en quelque sorte. Donc sur la Lune, ça voudra peut-être dire s'enfouir sous du régolithe, c'est-à-dire soit creusé dans des cavernes qui existent. Il y a des tunnels de lave qui existent, qui ont été identifiés. Alors, je ne sais pas si c'est faisable, mais ça va vouloir dire de développer beaucoup de choses techniques pour y arriver à le faire. Soit bâtir avec des briques fabriquées sur place en régolithe qui, évidemment, protègent des micrométéorites, parce qu'il y a ça aussi. Hein, l'espace, c'est vraiment dur. Hein, et puis, de ces rayonnements. Donc, on va devoir apprendre des nouvelles choses. C'est aussi pour ça que les missions vers la Lune, pour l'instant, je crois qu'elles ne dépasseront pas un mois, c'est-à-dire qu'on essaiera de passer un peu entre les gouttes.
Et puis, il y a un autre sujet terre-à-terre, si je puis dire, il faut manger. Aujourd'hui, les astronautes de la Station Spatiale Internationale se font ravitailler régulièrement en nourriture par des fusées envoyées depuis la Terre. Or, cette façon de faire n'est pas viable pour des missions plus lointaines, hein, notamment la conquête de Mars. Et donc, la NASA et l'Agence Spatiale Canadienne lancent un concours pour révolutionner la façon dont on s'alimente sur Terre et dans l'espace. C'est Deep Space Food Challenge et c'est pleinement votre domaine d'expertise, Cyprien Versieux.
Alors, plus ou moins, oui. C'est-à-dire que moi, je travaille sur comment est-ce qu'on peut produire ce dont on a besoin sur place. Alors, quand je dis sur place, c'est surtout sur Mars, même si on travaille aussi un peu sur la Lune. Et c'est de voir justement comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir à tout amener depuis la Terre, mais au contraire, utiliser ce qu'on trouve sur place et puis l'utiliser au mieux pour produire de la nourriture, mais aussi de l'oxygène et d'autres choses.
Autre question, pour savoir s'il faut continuer à envoyer des hommes et des femmes là-haut, est-ce que l'humain est remplaçable, sachant qu'il y a de plus en plus de machines, on appelle ça des rovers, de plus en plus performants, équipés d'instruments scientifiques avec une précision augmentée. Alors pourquoi envoyer des humains pour explorer l'espace? Est-ce que c'est absolument nécessaire, malgré les coûts, malgré les risques que ça continue d'impliquer, Philippe Hénarejos?
Alors là, c'est une question presque philosophique, parce que on voit bien que il y a eu des explorations humaines sur la Lune qui ont donné des résultats formidables, même si les humains, les 12 hommes qui ont marché sur la Lune n'étaient pas des géologues, n'étaient pas des scientifiques, ils ont été formés un petit peu, ils ont fait un travail formidable en très peu de temps, ils ont eu une efficacité mais redoutable, et on a les échantillons qu'ils ont ramenés, les photos qu'ils ont faites et les découvertes qu'ils ont faites ont permis, en gros, pour faire simple, quand même de raconter l'histoire des planètes du système solaire, la Terre incluse. Donc c'est pas rien. Et ça en 6 missions, vous voyez, de quelques jours sur la Lune. Et puis d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a des robots qui sont envoyés un peu partout sur les planètes. Sur Mars, c'est ceux qui sont le plus visibles actuellement, mais il y en a un peu partout. Et ces robots, ils travaillent plus lentement parce que le poids est compté pour envoyer des robots ailleurs, pour les expériences sont comptées, donc il faut faire des sélections. Et donc ils avancent à un rythme qui est nettement plus faible que ce que feraient les humains, mais en même temps, si on devait envoyer les humains sur Mars, on voit bien que c'est compliqué, que ça prend encore plus de temps.
Donc, une précision, le rover, c'est l'espèce de 4x4 hein, que les astronautes d'Apollo conduisaient. Il a fait plus de route en 5 jours sur la Lune que le premier rover de la NASA, sans humain à bord, en un an sur Mars. Donc ça accrédite l'idée qu'il faut des hommes derrière les machines.
Oui, mais au-delà de ça, si vous voulez, je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est que l'exploration, j'ai l'impression que c'est peut-être, je sais pas si c'est à nos gènes, mais c'est à nous ça, l'exploration c'est des humains qui l'amènent, parce que les humains ils partent de la Terre, ils partent de chez eux en fait, et puis ils vont voir ailleurs, et le fait d'aller voir ailleurs, ils ont un regard différent sur la maison, sur la Terre. Les astronautes qui sont allés sur la Lune, ça a été les seuls à voir la Terre de loin et à comprendre et à nous raconter, même s'ils n'étaient pas très doués pour ça à l'époque, en communication c'était pas ça, mais ils ont quand même réussi à prendre des photos et à nous dire, regardez, la Terre, c'est un vaisseau spatial dans lequel on est tous. Et des gens qui iront sur Mars iront faire des choses extraordinaires. On les suivra parce que ce sont des humains, parce que ça nous racontera des histoires. Et quand ils reviendront, ils nous raconteront des histoires. Donc, il y a cette dimension qui est importante.
Et c'est peut-être Cyprien Versieux qui nous racontera cette histoire.
J'espère pour lui.
C'est pas vous qui allez nous dire qu'il ne faut pas envoyer d'hommes dans l'espace, Cyprien. Au contraire, vous dites que l'homme a de nombreux atouts dans la conquête spatiale.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les robots peuvent faire des choses que les humains ne peuvent pas faire, mais ils n'ont pas la dextérité, la mobilité, la capacité d'improvisation que des êtres humains peuvent avoir. Et puis, comme le disait justement Philippe, il y a aussi ce facteur de rêve. Il y a aussi le fait qu'envoyer des humains sur Mars, c'est beaucoup plus inspirant qu'envoyer seulement des robots.
Et terminons avec ce que dit David Parker. Alors David Parker, c'est le directeur de l'exploitation humaine et robotique à l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Il dit que les robots et les astronautes sont complémentaires et qu'ils forment un partenariat. L'homme et machine dans la conquête spatiale indissociable. Merci pour vos éclairages, vos commentaires, vos expériences aux uns et aux autres pour ce débat du jour consacré donc à la conquête spatiale alors que l'ESA lance une nouvelle campagne de recrutement. Preuve qu'il y aura encore et toujours des hommes dans l'espace, des hommes et des femmes dans l'espace au cours des prochaines années. Dans quelques instants, un nouveau journal sur Radio France Internationale.